je commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup...
Bonjour. Un livre ? Oui, mais quel livre ? Avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous présenter nos coups de cœur et nos envies aussi, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on va parler de policiers. Alors, comme d'hab, avec moi, c'est toujours un peu free. Donc, c'est un livre qui m'a fait penser à ça. Un livre que je viens de finir, en fait, qui était très très bien. Qui ne sera pas sous le sapin, puisqu'il sort qu'en début d'année. Mais comme c'est un de mes derniers coups de cœur, je voulais le partager avec vous. Il sort en février 2016. C'est le nouveau titre d'Éric Senabre. Éric Senabre, déjà très connu donc, parmi les dévoreurs, du coup... Cette année, il a encore Elissa de Carthage dans la sélection 4e. Et il a aussi eu Subutessia en 5e, si je ne me trompe pas, il y a 2-3 ans. Donc, son nouveau titre est assez marrant, puisque du coup, c'est le dernier songe de Lord Scriven chez Didier Jeunesse, toujours. Il continue de publier chez Didier Jeunesse. Il s'amuse beaucoup de ce côté-là chez eux, en tout cas. Et là, c'est un policier version Conan Doyle. Conan Doyle, Sherlock Holmes. Le Sherlock. C'est-à-dire que là, on a un personnage exactement comme Watson, un ancien, sauf que là, au lieu d'être médecin, il est reporter, qui va être notre narrateur. Un peu dans le même principe, justement. C'est notre narrateur, c'est un ancien reporter qui a un peu trop fouiné. Il a fouiné là où il fallait pas, et il s'est retrouvé au chômage, sans appartement, sans rien. Et il tombe sur une annonce très étrange, où quelqu'un cherche un collaborateur, et il faut demander une théière. N'ayant plus grand-chose à perdre, il faut être honnête, il dort sous les ponts depuis quelques jours déjà. Il décide d'y aller, on est en 1900, en Angleterre, début du XXe siècle, début des grandes manœuvres. Il décide d'aller voir. Et il tombe sur cet homme, Monsieur Banerjee, un Indien, un hindou a priori, d'origine indienne en tout cas, qui est un enquêteur spécialisé. Alors, mais un enquêteur spécialisé un peu bizarre, pour le coup, puisque c'est un très mauvais enquêteur de base, si je puis dire. Sauf qu'il peut rêver. Il a le don de rêver de ses enquêtes et de remettre tous les petits détails, un peu comme un Sherlock Holmes, du coup, ce petit côté des petits détails qui ont toute leur importance. Ben lui, il les réorganise comme ça par un rêve. Un rêve assez onirique, assez psychédélique, d'ailleurs. Et le journaliste va donc être son faire-valoir, son Robin de Batman, et va lui apprendre et va l'aider, en fait, dans ses enquêtes. Donc ils vont mener quelques enquêtes, le début du roman se passe très très vite finalement, c'est quelques enquêtes autour d'un vol, autour de quelque chose comme ça, où on découvre un peu ces personnages-là, et l'enquête principale c'est ça. Lord Scriven a été tué, ou en tout cas est mort, c'est tout ce qu'on le sait, puisque Lord Scriven a été retrouvé mort, et Lord Scriven était un marchand d'armes très connu au Royaume-Uni, et du coup ça paraît bizarre. Surtout quand c'est le Lord Scriven en question qui se présente devant Banerjee, dans le corps de son valet, en lui expliquant qu'il cherche à savoir qui l'a tué lui-même. Donc là, tout de suite, on bascule déjà sur quelque chose d'un peu différent. Et du coup, on tombe sur un polar avec des implications politiques, un très grand polar finalement, un très bon polar, surtout avec un pitch un peu étrange comme ça, ce petit côté Conan Doyle, mais que j'ai beaucoup aimé parce qu'Éric Senabre a une patte, il a un truc qui fait que c'est super intéressant, que ce Banerjee est assez génial, qu'il y a plein de mystères qui planent autour de ce personnage. Alors peut-être que ce sera que le premier volume d'une série, qui sait. Moi j'ai lu la fin, donc je ne peux pas tout vous dire. Niaf. Puis on ne va pas tout révéler aujourd'hui quand même. Mais du coup, c'est un très bon roman policier, assez drôle et assez facile à lire du coup, et qui sera, je pense, un gros coup de cœur du début d'année, en tout cas pour moi, c'en est déjà un. Et le deuxième, c'est un de mes coups de cœur de fin d'année, Carl Yassen, Thierry Meunier. Alors ça, c'est Carl Yassen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur de polar adulte et jeunesse, à la base. Auteur très engagé du côté de l'écologie. Donc en ce moment, en plus, avec la COP21, c'est pas mal. C'est un auteur donc, qui est très écolo, et donc tous ses romans ont la particularité, si je puis dire, de se passer dans les Everglades, en Floride. C'est un auteur américain qui doit d'ailleurs habiter en Floride, je suppose. Et avec toujours une enquête policière au milieu de ces marais, splendide marais d'ailleurs, qu'il décrit très très bien. On sent qu'il a l'habitude d'y aller. Et moi, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait en général. C'est vrai qu'en jeunesse, je le trouve toujours un peu léger, en fait. C'est pour ça que celui-là m'a d'ailleurs énormément plu. C'est vrai que je le trouve toujours un peu facile pour la jeunesse, on va dire. Sur ses polars sont très bien, mais voilà. Là, celui-là, eh ben, il a réussi à faire encore autre chose que je trouve génial, d'ailleurs. Il nous a sorti une histoire complètement délirante. Mais délirante et en même temps avec un vrai fond. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Alors, j'ai plus son nom dans la tête. Richard, c'est ça. Richard, son cousin. Le cousin de Malay. Malay, une jeune fille assez brutale, assez vive, qui veut échapper à l'internat. Parce que l'internat, bah, on sent que c'est fort caractère. Donc, elle ne doit pas avoir tellement envie de s'enfermer. Qui s'est enfui avec un garçon rencontré sur le net à travers la Floride. Et le garçon, il y croit pas. Il est persuadé qu'elle a été kidnappée. C'est pas possible autrement. C'est impossible. Il y croit pas du tout à cette histoire et le coup de la fugue avec le jeune homme et tout ça. Où elle serait amoureuse de lui et tout ça. Et il trouve ça bizarre. Donc il décide de partir à la chercher. Et il va tomber sur un ancien gouverneur de Floride. Un écologiste convaincu, un mec d'1m92 avec un œil en moins, une espèce de montagne, mais vraiment une montagne. Et la première fois qu'il fait sa rencontre, c'est un des passages très drôles, c'est qu'en Floride, il faut savoir que les tortues, notamment, sont protégées quand elles font leur nid, pour éviter que bah, les gens viennent piquer les œufs ou les détruire les nids, laisser la nature faire. Donc ils sont protégés, il y a des gens qui rôdent autour des nids pour les protéger et aussi des gens qui rôdent autour pour les détruire ou récupérer les œufs qui peuvent valoir de l'argent. Skink a une technique. Skink, donc notre... Il s'enterre sous le sable à la place du nid. Il fait croire que c'est un nid et dit que quelqu'un arrive pour détruire le truc, il lui saute dessus. Oui, ce garçon a des idées étranges. Ce vieux bonhomme de 70 ans a des idées étranges. Mais Skink est touché par Richard. Il trouve ça bien, ce qu'il fait pour sauver sa cousine. Alors, il décide d'y aller. Et ils partent ensemble, tous les deux, direction la Floride, les marais de Floride, puisque du coup, la jeune fille a réussi à lui laisser un message où elle lui disait où il était, où elle était, avec ce vieux fou. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un vieux fou. Et c'est une super enquête policière au milieu de la nature. C'est assez génial. Skink nous réserve toujours des surprises parce qu'en fait, il suit l'enquête. C'est lui qui va résoudre l'enquête, si je puis dire, qui va la retrouver. Mais en même temps, il y a des fois, on a l'impression que d'un coup, il va péter un pont, comme le moment où il va suivre quelqu'un qui jette sa canette par la portière. Ils vont faire un détour de 40 km avec la voiture juste pour retrouver le mec et lui dire que c'est pas bien. Voilà. Enfin, il lui dit que c'est pas bien, il lui détruit la voiture aussi, au passage. Oui, mais il est un peu foufou, ce garçon. Et du coup, c'est génial, Skink est génial, les marais sont géniaux. Et là, on retrouve un Carl Yassen que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est un Carl Yassen qui est un peu plus adulte dans ses récits, même pour ados, c'est-à-dire que là, il y va vraiment, quoi. C'est-à-dire que son personnage est fou jusqu'au bout. Voilà, il va même affronter un crocodile, ce garçon. C'est pour ça que le roman s'appelle « Dans la gueule de l'alligator ». Mais est-ce que c'est un crocodile ou est-ce qu'on parle du jeune homme avec qui s'est enfui Malay? Donc c'est un super polar autour de la nature, bien sûr, autour de l'écologie aussi, mais avec cette histoire aussi sur le net, du coup, des dangers d'Internet aussi, finalement. Donc voilà, un très très bon polar parce que parce qu'on se marre à le lire et que ça fait du bien aussi de se marrer avec Carl Yassen parce que ses persos sont tellement bons et son marais est super joli, faut être honnête. Il a une description du marais qui donne vraiment envie d'aller faire un tour et en même temps de les préserver aussi, je pense que c'est un peu important. Et le troisième. Je me suis dans l'obligation d'en parler, en fait. Pour un policier, j'avais un peu de mal à ne pas en parler de celui-là. C'est une réédition. Alors oui, je sais, gna. Hein. C'est Robert Cormier, La Brocante du cœur. J'ai déjà fait une émission sur Robert Cormier, qui est un auteur que voilà, j'adore, je suis fan, je suis complètement converti. Vieil auteur américain, mort en 92, publié à l'École des loisirs, donc à La Brocante du cœur, dans leur nouvelle collection de poche, en fait, qui est une collection plutôt sympa, où il réédite des titres en poche. Et Robert Cormier, il faut savoir qu'il a écrit des livres quand même qui étaient super violents psychologiquement et physiquement, puisqu'il avait toujours cette barrière de violence psychologique et violence physique qui rentrait. Et tous ces livres ont été écrits il y a des années quand même. Je veux dire, 92, il est mort, ses premiers titres, je ne sais plus quand il date, là, celui-là, je crois que c'est en 2002, puisqu'on a édité un peu après sa mort en France. Mais c'était génial. Enfin, honnêtement, c'est une tuerie. Et donc, La Brocante du cœur, c'est une histoire toute simple. Ça part toujours comme ça avec Robert Cormier, c'est une histoire simple en soi. C'est une histoire triste, mais c'est une histoire simple. C'est-à-dire que on est dans une petite ville des États-Unis. C'est toujours la même. Là, j'ai plus le nom en tête, mais c'est toujours la même petite ville des États-Unis où il se déroule ses aventures. Une jeune fille a été retrouvée morte. Accident, meurtre, On n'en sait pas pour l'instant grand-chose, en fait. On soupçonne un meurtre, parce que bon, elle a une marque de caillou, je crois, sur l'arrière du crâne. Elle aurait été tapée. Mais il n'y a pas eu de violence sexuelle ni rien, donc c'est juste un meurtre. Sauf que on est au jour des élections, enfin l'année des élections du sénateur d'Amérique, des sénateurs d'Amérique, et la petite fille du sénateur est dans la même classe que cette petite fille qui est morte. Pour se faire réélire, ça fait un peu moyen d'avoir un meurtre en élucidé. Et surtout, on a zéro idée de qui ça peut être. Zéro idée, mais vraiment, hein, je veux dire, rien, rien du tout. Le seul témoin, c'est Jason. Jason, c'est un jeune garçon de 12 ans, et la petite fille avait 8 ans. Mais voilà. C'est tout. C'est juste ça. Mais c'est juste le truc qui trouve ça bizarre, quoi. Les mecs, je crois que c'est Jason, ouais, qui s'appelle. Je sais plus son nom, là, mais je pense que c'est Jason dans ma tête. Bref, il a 12 ans, elle en avait 8. Voilà, c'est le seul truc qui étonne un peu les policiers, mais après, voilà, ils ont le droit de jouer ensemble. Il n'y avait pas de. Voilà. Mais il faut résoudre le meurtre. Et bon, on a un suspect après tout, on a ce gamin. Il est gentil, il est épris de justice, il aime les policiers comme tous les petits garçons, finalement, comme beaucoup de petits garçons. Alors, on va envoyer Trent. Trent, c'est le spécialiste de l'interrogatoire. Lui, il est habitué à faire craquer tout le monde. Alors, le début du roman commence, il fait craquer un mec pour 3 meurtres et l'autre avoue en larmes. Voilà, il sait son job. Psychologiquement parlant, il est dué. Par contre, il s'ennuie dans cette ville, dans une autre ville des États-Unis. Le sénateur l'appelle, il fait écoute, si tu fais avouer le gamin de 12 ans, moi je te trouve un autre blood, je te trouve un poste à Washington, quoi. Alors le mec est super content parce que, bon, voilà quoi. Il avait marre un peu de la campagne. Donc c'est parti, il se met au travail. Et voilà, c'est le récit d'un huis clos entre Jason, un gamin de 12 ans, qui est a priori est complètement innocent, et Trent, un spécialiste d'interrogatoire à qui on a dit, bah toi, tu lui fais avouer qu'il a tué cette gamine. C'est un huis clos totalement assez horrible. C'est une torture psychologique puisque tout le long du roman, on va voir Trent qui lui retourne le cerveau, quoi. Enfin voilà, il retourne. Et le gamin qui comprend pas ce qu'il fait là, au départ, il est juste appelé pour, comment ils disent les flics, pour conforter sa version. Pour juste qu'il discute un peu, qu'il voit, voilà. Et il se retrouve pris dans cette espèce de piège odieux tendu par le sénateur et cet inspecteur. Jusqu'à la résolution du truc. Et c'était génialissime. Robert Cormier, moi, c'est un auteur que j'adore, vous savez bien. Et celui-là, c'est cette espèce de huis clos horrible. Je trouve ça génial. Génial parce que c'est super bien construit. Trent est un monstre, mais un monstre très intelligent. Et ce gamin est tellement bien décrit, ce petit gosse qui est juste innocent, qui est juste gentil, qui est juste, il comprend pas pourquoi sa copine est morte et qui comprend pas pourquoi lui, on le met sous pression, quoi. C'est juste un gamin, il voudrait peut-être rentrer chez lui. D'ailleurs, tout au long du roman, il le dit, il fait, bah, je pourrais peut-être rentrer chez moi. Et pourtant, il reste quand même. Il reste parce que l'autre est bon, quoi. Donc voilà, c'est une histoire assez horrible comme ça. Oui, j'avoue, hein, ça. Il y a mieux, il y a plus drôle. Mais c'était tellement, c'est tellement génial, en fait. J'en profite que c'est une réédition parce que c'est vrai que l'ancienne version, du coup, c'est plus dur à conseiller. Que c'est, voilà, la couverture était moins jolie aussi, il faut être honnête. Un peu plus jolie. Et je trouve que c'est bien de ressortir ces vieux auteurs parfois, si je puis dire, parce qu'ils n'ont pas vieilli en soi. Et ça n'a pas vieilli, le texte est magnifique. Enfin, je veux dire, Robert Cormier. Donc, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça. J'en profitais pour lui mettre une petite chips pour ça. Et le petit dernier, ouais, j'ai le temps, on est bien. Prédiction de Joanne Hélio dans la collection Rageux Thriller. J'avais fait aussi une mission sur les Rageux Thriller que j'avais trouvé plutôt intéressant au départ. Prédiction Joanne Hélio. Joanne Hélio, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un qui écrit bien, qui en général des scénars qui sont plutôt pas mal, toujours un peu entre la SF et le policier souvent. Il y a parfois du fantastique, il y a parfois de la pure SF d'ailleurs avec son dernier Ciel. Et là, ça, c'est une série chez Rageux Thriller, Enigma. Deux ados, des jumeaux. Qui font de l'escalade, c'est bien, et qui vont tomber sur deux cadavres, un espèce de militaire de barbouze, une espèce de super barbouze qui est mort, avec un mec en costard cravate. Bon, bah, ils préviennent leur père, puisqu'ils habitent tout seuls avec leur père, leur mère a disparu, et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver un smartphone. Sauf que le problème, c'est que smartphone, c'est pas un smartphone comme les autres, et très loin de là. C'est un smartphone qui prédit l'avenir, qui donne des possibilités sur les questions qu'on pose d'avenir, des prédictions. Donc, et voilà les deux gamins pris entre deux feux, si je puis dire, entre le fait d'essayer de sauver leur peau déjà, puisque bien sûr, ça n'est pas censé être diffusé dans le commerce. Et ces deux organisations, en fait, une organisation qui lutte pour la liberté, si je puis dire, qui est une organisation un peu de pirates informatiques, et une organisation, et l'armée en quelque sorte plutôt, parce que du coup c'est l'armée, le FBI qui se tape dessus là, pendant ce temps-là aussi. Donc c'est une très bonne série, honnêtement voilà, j'avais lu le premier volume, j'avais pas eu le temps de lire la suite, c'est super, honnêtement on se marre bien, c'est un super scénar, le côté prédiction avec le téléphone qui donne des prédictions tout le long du roman, enfin tout le long du roman, le téléphone qui balance des pourcentages, genre vous avez 30% de vous en sortir, bah merci de l'info. Ces deux jumeaux qui se retrouvent séparés, donc qui vont être assez vite séparés, qui vont se retrouver donc avec tous les deux leurs caractères différents, et aussi on va revoir deux trois personnages, leur père qui est auteur de science-fiction et qui comprend pas tout ce qui se passe mais qui se fait arrêter aussi, enfin voilà, c'est bourré d'action, c'est du rageux thriller comme on aime, c'est de l'action, c'est du brutal avec un scénar qui est sympa, c'est du Johan Helliot qui passe très bien. Et ça aussi, c'est pareil, c'est assez génial. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. Vous souhaitez une bonne journée, profitez bien et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie. Bonne journée à tous, à dans 15 jours.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.